Vous y allez? Alors, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Voilà, nous commençons cette nouvelle année universitaire, académique, théologique, cherche des mots élogieux pour désigner l'année que nous allons passer ensemble. Et c'est le cours donc de théologie de la liturgie. Je dis ça en m'adressant au public nombreux qui est réuni ce soir. Mais derrière la caméra, il y a des centaines de gens. Sans compter les anges et les archanges, parce qu'ici nous sommes à la cathédrale des saints archanges, donc il y a encore plus de monde qu'on pense. Et donc cette année, donc Mgr Joseph a voulu que je continue, je ne sais pas pourquoi, mais ça c'est ça le regard, il est assez grand pour savoir ce qu'il fait, que je continue les cours, et donc le cours de théologie de la liturgie, et le cours de théologie dogmatique. Donc, et cette année, il y a une logique quand même, ça a l'air d'un désordre, mais en fait c'est un ordre, il y a une logique année après année, donc ce qui arrive un peu là est une sorte de, pas de nécessité, parce que la nécessité n'est pas un mot chrétien, et puis la nécessité ne gouverne pas le monde, c'est l'amour qui gouverne le monde, comme vous savez très bien, et donc c'est l'amour qui nous inspire ce qui est bon pour l'Église et pour les paroisses. Et je pense que ce qui est bon pour les paroisses, c'est d'avoir une réflexion théologique sur les sacrements. Donc on en arrive à ça, que l'année sera consacrée à l'étude, selon mes limites, selon mes possibilités que vous connaissez pour ce qu'elles sont, selon mes limites, donc ce sera une réflexion sur la nature des sacrements, leur histoire un peu, leur structure, et surtout leur contenu. Je dirais leur contenu théologique, en fait. Parce que les sacrements ne sont pas des rites vides, mais donc ce sont des actes qui sont pleins de sens, pleins de signification, pleins de vérité, pleins d'énergie, pleins d'amour, c'est quelque chose de magnifique. Et je dis ça parce que parmi les fidèles qui se présentent dans nos paroisses, il y en a un certain nombre pour qui les sacrements n'ont aucune signification. Aucune signification. Des amis roumains que j'aime beaucoup, qui sont bien meilleurs que moi, pensez bien. Et une fois on a parlé de ça, je leur ai demandé pourquoi à cette amie, je lui ai demandé pourquoi son mari, qui est roumain également, ne vient pas du tout à l'église, est plutôt sympathisant. Et elle m'a dit, mais vous savez, pour lui comme pour nous en général, ce qu'on fait à l'église, ça n'a aucune signification. Elle m'a dit, ce sont des rites vides de sens. Alors pour elle, je pense que c'est un petit peu différent, parce qu'elle peut... Mais son mari et ses fils, s'ils viennent à l'église, ce qui est fort rare, pour eux, ça ne veut absolument rien dire. Et alors, pourquoi, donc c'est intéressant, c'est une question à poser quand même. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de catéchèse, c'est parce qu'on ne les a pas enseignés, c'est parce qu'ils ne veulent pas faire d'efforts pour comprendre, ou est-ce que vraiment l'Esprit Saint s'est retiré de nos paroisses à ce point-là? Ce qu'on fait n'est plus aucune signification, c'est quand même c'est alarmant quand même, vous voyez. Donc je pense, en fait, effectivement, pour un certain nombre de membres de l'Église, ce qui s'y passe n'a pas beaucoup de signification, ce qui explique que les fidèles passent une partie des offices à se promener, à allumer un cierge, à sortir, éventuellement à parler entre eux, arrivent à 11h après l'Évangile, parce qu'en fait, tout ça, c'est très agréable pour eux, sympathique, ils retrouvent des amis, tout ça, bon. Mais ça n'a pas, pour eux, il ne se passe rien. Et ceci est très fréquent chez les chrétiens. J'ai des amis protestants, pas une amie protestante, qui est pasteur dans une paroisse de la région parisienne, et qui m'a dit la même chose. Enfin, venant de cette pasteur protestante, ça m'a attristé, mais ça n'aurait pas dû m'étonner trop. Elle m'a dit, mais pour nous, il ne se passe rien. Le baptême, il ne se passe rien du tout. Ce sont des symboles, on rappelle quelque chose. Elle m'a dit ça, je l'entends encore, je l'ai fait répéter, mais comme je l'entends pas toujours très bien, je me rappelle que Pascaline était là, on l'avait répété, cette dame. Il ne se passe rien du tout. Donc, c'est un peu ça le sujet. Moi, c'est ça qui m'intéresse, si vous voulez. Parce que quand même, nous ne vivons qu'une fois. Est-ce que nous allons perdre notre vie et passer tellement de temps à l'église, tous les dimanches, quelquefois en semaine, toute l'année, 365 jours sur 365, pour rien, pour des actions qui sont privées de sens, qui sont... Bah, on est complètement malade de faire ça. Il faut complètement piquer pour passer tellement de temps à des activités qui n'auraient aucun sens. S'il ne se passe rien dans l'église, moi, franchement, je suis prêt à faire autre chose, vous voyez, du sport, ou une activité artistique, ou aller au café avec des copains, je ne sais pas, bah, oui, faire autre chose, c'est pas. Mais donc la question est vraiment, l'enjeu est vraiment là, et je m'appuie beaucoup sur, je pense, l'auteur, le théologien de la liturgie que j'admire le plus, que vous le savez parce que je répète toujours la même chose, qui est le père Alexandre Schmemann. Donc, je dis, levez la main ceux qui. Bon, et tout le monde a levé la main, je vois ça là-bas, ils ont levé la main, pour dire qu'effectivement, ma référence, c'est quand même père Alexandre Schmemann. Et père Alexandre pose vraiment cette question-là, c'est-à-dire savoir si les rites de l'Église, donc les sacrements et la liturgie elle-même, ça va assez loin, est-ce qu'ils sont purement des actes symboliques, hein, ou est-ce qu'il se passe quelque chose? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui se passe? Et s'il se passe quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je trouve que c'est très intéressant. Très intéressant. Et parce que là, si vous voulez, si on arrive vraiment ensemble à réfléchir là-dessus et à s'intéresser à l'événement sacramentel dans l'Église ou de l'Église, ça renouvelle complètement notre fonctionnement de chrétien, ça renouvelle complètement notre raison d'être là, à l'Église le dimanche matin ou à un autre moment, parce qu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose de très important. Alors, ça, c'est donc, je vais répéter ça à peu près 1000 fois, à chaque fois, parce que c'est ça qui m'intéresse le plus. Le côté, l'événement, le happening, comme disaient les anglo-saxons, je crois qu'effectivement, to happen en anglais, comme vous savez très bien, ça veut dire arriver. Il arrive quelque chose, il se passe quelque chose. Something is happening. Et justement, mais dans l'Église, c'est ça, c'est un happening continuel. Il arrive quelque chose, pas seulement quelque chose, mais probablement quelqu'un, c'est encore plus intéressant que quelque chose, quelqu'un qui est le Christ, qui arrive continuellement par la grâce du Saint-Esprit, et l'Esprit Saint qui arrive continuellement aussi. C'est pour ça qu'on dit, viens et demeure en nous, par exemple, alors ça, c'est pas une parole en l'air quand même. Roi céleste, consolateur, viens et demeure en nous, bah, ça arrive, ou dans notre Père, je crois, si je ne me trompe pas, genre, notre Père, quelquefois, on a des hésitations à cause de toutes les traductions. Et notre Père qui est aux cieux, je crois que ça commence comme ça. Que ton règne arrive ou vienne. Ah, non. Donc nous sommes là à demander et à souhaiter qu'il se passe quelque chose, et qu'il arrive quelque chose, ou que quelqu'un arrive effectivement dans notre vie, dans le monde, dans l'Église, et dans le cosmos tout entier. Donc c'est et donc là, on est en train de s'approcher, je tourne toujours autour du pot, parce que je suis né en Normandie, et en Normandie, quand on veut vendre sa vache, on discute beaucoup au village avec l'un et l'autre, etc., pour après ça arriver à fourguer ce qu'on a à vendre. Et donc je tourne un peu autour du pot pour arriver, bien entendu, à l'essentiel que je veux présenter ce soir. Donc ce soir, je voudrais faire une présentation générale, mais qui va être extraordinairement intéressante, donc je vous prie de vous attacher vos sièges. Et après ça, donc, les autres séances, il n'y en a pas énormément, c'est une séance par mois, alors oui, c'est quand même pas très fatigant, une séance par mois, mais de 2 heures, je présenterai les sacrements successifs en essayant de parler le plus tôt possible du Saint-Mariage, parce qu'il y a parmi vous les personnes qui s'intéressent en priorité. Bon, alors avant d'entrer dans le sujet un petit peu plus, je tiens à vous parler un petit peu des livres, ce qu'on appelle la bibliographie, c'est un mot très, très sérieux, parce que là on est comme là pour être très sérieux, c'est le centre Domitrios Saneloé, centre d'études orthodoxes, etc., donc il faut être extrêmement sérieux, donc m'en parlons à nos spectateurs invisibles et visibles de manquer de sérieux peut-être dans ce que je dis. Et donc, quand on veut être sérieux, on part d'une bibliographie, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut avoir lu? J'essaie d'éviter le verbe falloir, le verbe devoir, les phrases commencent par il faut, on doit, tu dois, nous devrions, etc. Je m'en méfie un petit peu, parce que la vie dans l'Église n'est pas une vie obligatoire. C'est une vie charismatique, c'est une vie spirituelle, comme on dit, c'est-à-dire selon le Saint-Esprit, nous sommes dans l'Église, non pas par obligation, parce qu'on doit, ou c'est une nécessité, ou il faut, je crois, nous sommes dans l'Église parce que nous sommes appelés par le Christ, par l'Esprit-Saint, à vivre de cette manière absolument passionnante, qui est la vie des disciples du Christ, telle qu'elle apparaît dans l'Évangile. Quand nous ouvrons l'Évangile, à n'importe quelle page de l'Évangile, nous disons ça, nous disons, oh, moi aussi, je voudrais vivre cela. Donc c'est cet appel là, mais donc quand même on peut avoir lu certains livres pour approfondir quand même, et là c'est quand même assez intéressant, je vous en fais la liste, vous la trouverez sur le site de la métropole au chapitre donc de Apostolia des cours, mais je vous la donne, je la présente rapidement quand même, je vous dois cela, je crois. D'abord les deux textes qui sont vraiment intéressants, qui sont des textes de pères occidentaux, le père latin, c'est donc un ouvrage de Saint Ambroise de Milan, et qui s'appelle le Traité des Sacrements. Alors ceci, moi j'en dispose dans une édition un petit peu ancienne, il y a peut-être eu des rééditions, moi je vous dis des bouquins que j'ai à la maison, c'était un volume qui s'appelait L'initiation chrétienne, et il y avait un sous-titre qui s'appelait « Lettres chrétiennes numéro 7 », qui est publié chez Grasset à Paris en 1963. Alors, je ne sais pas qui d'entre vous était né à cette date-là, mais presque personne. Bon. Et dans ce volume, les éditeurs ont réuni une série de textes extraordinairement intéressants, justement, sur les sacrements, principalement sur la liturgie et sur le baptême, donc des commentaires des pères. Donc, là-dedans, dans ce volume, il y a trois textes sur lesquels je me auquel je ferai référence souvent, c'est donc le traité des sacrements d'Ambroise de Milan, qui est un écrivain du IVe siècle, le traité des mystères de Saint-Hilaire de... Ah non, je me trompe, le traité des mystères de Saint-Hilaire de Poitiers, il est publié ailleurs, non, le livre de Saint-Maxime le Confesseur, la mystagogie de Saint-Maxime le Confesseur, c'est dans ce volume également, et sur deux écrivains très très différents, vous savez peut-être que alors là, je ne sais pas un cours de patristique, alors je ne vais pas vous faire de développement là-dessus. Saint Ambroise de Milan est un disciple enfin, de l'école d'Origène, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a appris à faire de la Bible, de l'Écriture sainte, de la parole de Dieu, une exégèse développée, approfondie, mystique souvent, à dégager le sens des grandes figures bibliques. Bon, alors donc il fait ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Saint Maxime le Confesseur, c'est un petit peu différent. C'est quelqu'un qui est très influencé par la philosophie grecque d'un certain côté, mais qui a voulu aussi commenter les textes de Denis l'Aréopagite, les a commenté beaucoup, et qui est un des plus grands théologiens de la tradition patristique, et donc lui fait un commentaire de la Divine Liturgie qui est très intéressant, qui s'appelle la Mystagogie, et qui est dans ce même volume, donc Initiation chrétienne, Lettre chrétienne numéro 7, et Saint Maxime, c'est page 251. Alors effectivement, parmi les pères anciens, et d'abord ça m'intéresse de prendre des pères occidentaux, parce qu'ils ne sont pas toujours très connus, beaucoup d'entre nous pensent que quand on dit les pères de l'Église, c'est forcément des orientaux parlant grec ou libanais ou je ne sais pas quoi. Alors en fait, on pourrait peut-être s'intéresser à la patristique occidentale latine, de langue latine, qui est pas toujours aussi intéressant, c'est vrai, pour reconnaître quand même, mais qui est quand même immense, une immense littérature, et en particulier, Saint Ambroise de Milan est un écrivain immense qui est malheureusement très peu traduit en français, il y a beaucoup de choses de lui qui ne sont pas traduites, et un autre, donc, que je cite ici, qui est donc Saint-Hilaire de Poitiers, et qui a été un très grand écrivain, un théologien, enfin, c'est vraiment quelqu'un de très important, qui était donc... évêque de Poitiers, c'est quand même intéressant, c'est quand même chez nous, bon, un père occidental, qui écrit en latin, donc, et qui est un disciple des pères grecs, un disciple de Saint Athanase, un disciple, bon. Et donc lui a écrit un traité des mystères que j'ai apporté ce soir et qui est publié, alors je le montre parce qu'il y a des gens qui regardent les images, traité des mystères de Saint-Hilaire de Poitiers, publié aux sources chrétiennes, c'est le numéro 19 bis, dans la collection des sources chrétiennes au CERF, et ça a été publié en 1967. Alors c'est pareil, personne d'entre nous presque ne parlait ou ne marchait encore à cette époque-là. Oui. Bon, donc ça c'est. Alors il y a bien sûr d'autres textes patristiques, des commentaires de la liturgie, il y en a des quantités. Tout le monde a entendu parler de Saint Nicolas Cabasilar, un auteur beaucoup, beaucoup plus tardif, du XIVe siècle, sur lequel on ne peut pas passer, forcément, à un moment ou à un autre. On cite l'explication de la divine liturgie, on cite la vie en Christ de Saint Nicolas Cabasilar, c'est incontournable, si tu veux, bien entendu. Il y a des commentaires de la liturgie aussi, que Saint Germain de Constantinople, qui avait des commentaires surtout de la divine liturgie, mais pas très développé à ma connaissance. Et puis, alors beaucoup plus récemment, alors à notre époque, des auteurs contemporains, il y en a plusieurs. Moi, j'utilise beaucoup quand même le livre de professeur Constantin Andronikov, qui a été professeur à l'Institut Saint-Serge, que bien sûr connu personnellement, qui est né au ciel maintenant. Et ce volume-là s'appelle « Des mystères sacramentels ». Vous voyez, donc tout le monde, je le montre également pour que tout le monde le voie. Et c'est publié aux éditions du CERF à Paris, en 1998. Ah, ça commence à se rapprocher quand même. Bon. Et il y avait également un livre, alors je m'en sers beaucoup, j'en lirai tout à l'heure si j'ai le temps, j'en lirai quelques passages, c'est vraiment assez intéressant. Bon, et puis il y avait un livre aussi de Mgr Stéphane, Stéphane Carolombidi, c'est un évêque il a été l'évêque vicaire du métropolite Meletios, je crois, à Paris pendant un certain temps. Et maintenant, il est métropolite de Tallinn Estonie, voilà. Et cet évêque, qui parle français couramment, je crois qu'il est né en France, en tout cas, il était en France très très jeune, qui est grec. Mais il n'est pas grec, il est chypriote, a écrit en français, et il a écrit un livre que je trouve assez utile, enfin, qui s'appelle « Ministère et charisme dans l'Église orthodoxe ». C'est publié chez Desclée de Brouwer à Paris en 1998. Bon. Bon. Et puis, donc, les livres de Père Schmemann. Vraiment, quelqu'un qui aurait du temps qui lise tout ce qu'a écrit Père Alexandre. Y compris son journal, que je ne cite pas là. Pour moi, c'est vraiment la référence. Alors, les titres sont quand même des titres précis. Il s'agit donc de Père Alexandre Schmemann, un livre qui est « L'Eucharistie, sacrement du royaume », publié à Paris en 1985. Un autre s'appelle « D'eau et d'esprit », donc il parle du baptême, comme vous pouvez le comprendre, qui a été publié à Paris en 1987. Et un autre livre que j'ai ici, qui s'appelle « Pour la vie du monde », qui parle de la liturgie de manière assez générale, enfin, sur la base de l'Eucharistie, disons, il a fait des développements assez généraux, mais vraiment intéressants, sur les différents sacrements. Par exemple, il parle du mariage, au chapitre 5, il parle du baptême, il parle de l'Eucharistie, mais de manière un petit peu générale, parce que ce sont des entretiens avec les étudiants. Mais ça, j'aime beaucoup ce livre-là, je l'ai apporté pour en lire également des passages, si je peux. Et de Père Alexandre Schmemann, toujours, pardon, un livre qui est « Vous tous qui avez soif », publié en 2005. Alors là, ça commence à brûler, c'est vraiment presque hier, enfin, il y a 10 ans, 12 ans. Et qui se trouve, je pense que ces titres se trouvent quand même, ou alors si vous les trouvez, si en bibliothèque, ou quelquefois ils ont été réédités, ou sur Internet, ou d'occasion chez Amazon, chaque fois il faut se débrouiller un petit peu, parce que ce sont des ouvrages irremplaçables, vraiment irremplaçables. Alors à côté de ça, il y a effectivement des théologiens orthodoxes d'autres pays, surtout dans l'Église roumaine, qui est donc notre Église, donc c'est quand même intéressant de faire allusion à ce qui s'est passé comme réflexion théologique sur la liturgie. Alors il y a le livre de Père Dumitru Staniloe, qui a été traduit justement par Père Jean Bobox, dont nous parlions tout à l'heure, traduit en français, mais cette traduction française n'est toujours pas publiée. Donc je ne peux pas vous la recommander, mais mais surtout vous recommander d'apprendre à lire le roumain ou je sais pas quoi, ou de faire une manifestation publique pour que les éditions du CERF finissent par le publier conformément à leurs engagements. Mais dans cet ouvrage de Père Dumitru sur les sacrements, si vous voulez, il parle uniquement de la déminiturgie, mais ce qu'il dit de la déminiturgie, je vais s'applique, à mon avis, s'applique à l'ensemble de la vie sacramentelle de l'Église. Donc le jour où ce livre sera accessible, ou pour les étudiants qui lisent le roumain, comme ceux qui sont ici présents, ou certains de ceux qui sont ici présents, c'est à lire. Mais il y a également, puisqu'on parle du roumain, je n'ai pas apporté, il y a un livre très intéressant qui avait été publié en 1980 à Bucarest, un professeur que j'ai connu, je ne sais pas si je l'ai connu d'ailleurs, c'était très âgé en tout cas, après, c'était un peu la vieille école des professeurs à Bucarest, et son livre a été publié en 1980, et ça s'appelait Liturgica Speciale, c'est-à-dire, c'est un livre ce sont des cours très approfondis, très détaillés, sur la liturgie, sur les sacrements, alors c'est intéressant de l'avoir également, alors c'est vrai que je peux commenter un peu ça, c'est-à-dire que dans les textes que je vous ai donnés, en fait, il y a trois groupes. Et les textes patristiques, hein, qui sont comme la référence continuelle pour nous, parce que nous sommes des orthodoxes, et les orthodoxes sont les personnes qui se reconnaissent au fait, qui se réclament continuellement des saints-pères, nous sommes l'église des pères, etc. Je pense que nous devons être à la hauteur de notre réputation quand même, être sans être des patrolâtres, être quand même, c'est-à-dire que nous n'avons pas idolâtré les pères, nous sommes quand même assez intelligents, pour pas faire ça, mais tout de même d'avoir cette référence continuelle à la tradition patristique. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui définit, je ne vais pas être trop long, c'est pas tout à fait le sujet, mais quand même, qu'est-ce qui définit la tradition patristique? Ce n'est pas l'ancienneté, c'est pas l'ancienneté qui fait son caractère vénérable, c'est sa méthode, hein, c'est l'esprit patristique. Alors l'esprit patristique est un esprit essentiellement biblique, hein, qui consiste à développer toujours les textes bibliques, sans y ajouter quelque chose, bien sûr, mais à les expliquer ou les expliciter, comme on dit dans un certain français, à la lumière du mystère du Christ. C'est ça l'esprit patristique. Et donc tout ce que vont penser les pères sur d'autres sujets, sur les sacrements, sur l'ecclésiologie, sur l'anthropologie, sur ce que vous voulez, finalement, sur la cosmologie, évidemment, ça sort toujours de cette méthode-là, c'est-à-dire qu'on plonge dans la parole de Dieu, on plonge dans l'Écriture et on cherche où est le mystère du Christ présent dans l'Écriture qui éclaire le sujet qu'on veut aborder. Donc ça, c'est ça. Alors, je dis, on parle aussi d'esprit patristique ou d'esprit des pères parce qu'en fait, c'est une mentalité consensuelle. C'est-à-dire que les saints-pères ont eu des opinions quelquefois différentes les uns des autres. Les écoles, il y a quand même des grandes différences entre les uns et les autres, mais dans l'ensemble, tous essayent toujours de tenir compte de l'opinion des autres, de ne pas faire d'individualisme. Alors, l'esprit patristique est un esprit non individualiste, c'est un esprit ecclésial, un esprit consensuel, c'est un esprit collégial, mais très souple en même temps, c'est un consensus qui n'est pas contraignant, qui relève d'un accord permanent, renouvelable, d'une sorte de discussion permanente, même à travers les siècles, malgré les différences, qui fait que chaque père est équilibré par un autre. Par exemple, on peut lire Saint-Jean Chrysostome en entier, il y a forcément dans les œuvres de Saint-Jean Chrysostome des opinions qui lui sont propres. Donc il faut lire Saint-Jean Chrysostome, mais lire après ça un autre, je sais pas, Saint Basile, Saint Chrysostome, ou des écrivains de Saint Grégoire de Nazian, je sais pas, ou beaucoup plus récemment, pour équilibrer tout cela. Mais dans tous, on trouve la même mentalité, cet esprit patristique, qui est l'esprit de l'Église, et qui se manifeste spécialement dans la liturgie et dans la compréhension, l'intelligence des actions sacramentelles de l'Église. Donc ça c'est une chose. Ensuite, l'autre, qu'est-ce que j'ai cité d'autre? Ah oui, les autres textes, par exemple, mais ce n'est pas une critique négative de ma part, hein, mais on trouve également des textes dans la bibliographie qui se rapportent à la théologie, à la liturgie, des textes comme justement le livre du père Branicht, qui sont beaucoup plus académiques, et qui procèdent d'une méthode scientifique, d'une méthode exacte, mais avec beaucoup de prudence, beaucoup de prudence, beaucoup de rigueur et comment dire, un peu trop de prudence quelquefois. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui étudient les faits comme ils sont, mais qui ne s'engagent pas. Voilà, qui ne s'engagent pas personnellement. Oui, ça reste. Je vous lirai la définition que le père Branich te donne des sacrements. Bon, ben, il n'y a rien à dire. Si vous voulez, je suis évidemment d'accord avec ce qu'il dit. C'est un monsieur qui est beaucoup plus grand que moi. Mais j'aimerais prendre un certain recul par rapport à cette méthode-là. Mais ça existe aussi. On peut aussi admettre qu'il y a une théologie académique et qui a finalement sa valeur aussi, puisque dans toutes les activités de l'esprit humain, il est bien qu'il y ait des personnes qui travaillent de manière prudente, organisée, très très logique, à l'occidental, je dirais, à l'occidental. Puisque c'est ça, c'est intéressant, enfin, c'est un peu l'intérêt de la théologie romaine, c'est une culture théologique qui a été vraiment influencée par l'Occident, mais de l'Occident, souvent l'Occident axé scolastique quand même. Et donc ça donne des bons fruits, mais c'est un petit peu limité, et justement les écrits de Père Dumitru Staniloi vont à l'encontre de ça. Le Père Dumitru est celui qui, en Roumanie, a libéré la théologie de sa scolastique occidentale et a retrouvé justement l'esprit patristique pour la théologie contemporaine. Et je pense que justement, monsieur Andronikov, c'est un petit peu le même genre, si vous voulez, sur les théologiens orthodoxes contemporains, mais qui se reconnectent sur l'esprit patristique. Ce qui est Schmemann également. Schmemann, si vous voulez, c'est de la théologie, on dirait, néo-patristique. C'est-à-dire, il sort de l'académisme des écoles et il se reconnecte à la façon de faire qui était celle des pères de l'Église, qui est une façon souvent très très libre. Hein. Très libre, très inspiré, très, très, comment dire, très, très, très tributaire, si je peux dire, de la prière et de l'action du Saint-Esprit. En fait, dans tout ça, ce qui est important, c'est de voir quelle est la place du Saint-Esprit dans la réflexion théologique. Donc, de temps en temps, il faut faire preuve d'un peu d'audace, il faut faire preuve d'un peu d'humour aussi, pas se prendre trop au sérieux, et il faut faire quelques avancées, il faut trouver aussi des idées, avoir des idées un petit peu quand même, vous voyez, mais qui sont vraiment toujours cohérentes avec l'ensemble de la tradition. Voilà, donc vous voyez un peu cette bibliographie, elle est un peu importante, mais sur une année, on peut avoir lu, je ne sais pas de combien de temps disposent les étudiants. C'est vrai que souvent, c'est déjà tellement extraordinaire qu'il y ait des étudiants inscrits, il faut vraiment s'en émerveiller. Est-ce qu'ils ont du temps pour lire? Ben un petit peu quand même. C'est pas un petit peu, un petit peu quand même. En tout cas, piocher là-dedans ce qu'on peut trouver. Bon alors, je regarde l'heure. Voilà. Donc, je voudrais faire cette introduction générale. Je suis pas sûr d'arriver au bout de mon propos parce que j'ai déjà pris du temps pour démarrer. Alors, dans cette introduction générale, j'ai fait un peu une liste des différents points que je veux annoncer. Bon, alors. Mais parlons, faisons preuve de bon sens au fond. C'est-à-dire, même pour un cours de, je sais pas, deuxième année, troisième année, parce que c'est pas troisième année, donc pour des gens très, très évolués, très avancés, il n'est pas stupide de revenir au sens des mots. Sens des mots et du mot. Parce que donc, pour rappeler nos étudiants qui auraient pu l'oublier, ce que veut dire notre vocabulaire. Donc, dans le domaine donc des sacrements, on a deux trois mots, un mot qui vient du latin, un mot qui vient du grec et un mot qui vient du slave. À peu près ces trois mots qui sont en circulation. Donc, alors dans la langue latine, on emploie le terme sacrement qui vient de sacramentum en latin. Je ne surprendrai personne en disant ça, mais vous pourrez voir ce que ça veut dire étymologiquement ce mot-là. En grec, on a un mot qui est très, très intéressant, qui est le terme de mysterion, mystère, si vous voulez. Alors, mystère, ça fait un petit peu énigme, ça fait un peu mystère de la chambre jaune, ça fait un petit peu... Bon, marchons, il faut voir exactement qu'est-ce qu'on entend par là. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut passer 5 heures rien que sur ces mots-là, hein, je le ferai pas, je vous promets. Et puis, le troisième racine, c'est le mot qui est employé en roumain, d'ailleurs, et en russe, et dans d'autres langues, je pense, qui est le terme slavon, le tainé, tainzvo, en russe, oui, tainzvo, donc il y a tainé, tainélé, Bon, enfin, ça veut dire à peu près la même chose que mysterion grec. Je crois que le mot slave est très très proche du mot grec. Donc, si on revient un petit peu là-dessus, pardon.
Caché, ça veut dire quelque chose de...
Oui, c'est ça. Donc, quelque chose qui est caché, je vais revenir un petit peu là-dessus. Donc, ce qui est dans le mot sacrement, qui est le mot latin, il y a donc l'idée de sacré, de sacré, de consacré. Donc, un sacrement, c'est une action, une réalité qui, on va dire, dans l'Église, opère une consécration définitive d'une personne ou d'une créature. Je ne prends pas le mot chose. Le mot chose est un mot à bannir de la langue française. C'est vraiment horrible. Pas de chose, s'il vous plaît. Une réalité. Et donc, qui est, par le sacrement, elle est consacrée, elle est sacrée, elle est mise à part, comme elle me la met là, et puis personne n'y touche, sauf les gens qui ont le droit d'y toucher. Ça, c'est mon téléphone, il est à moi, ou il est à vous, je sais pas, faites comme vous voulez, mais, oui, c'est quelque chose qui est mis à part. Le sacré, ça consiste à mettre à part quelqu'un ou une réalité pour une activité très particulière qui est, on va dire globalement, la relation avec le divin. Donc c'est pas un mot spécialement chrétien, vous voyez, ça peut se retrouver dans d'autres expériences religieuses. Dès que l'être humain, que nous sommes tous ici, met une réalité à part pour la consacrer à une communication, ou un contact, une connexion, voire un langage, une relation, un dialogue, etc., avec le divin, on est dans le domaine sacramentel. Sacramentel, mais donc qui est très très important, alors que ça, c'est aussi dans le mot sacramentel, dans l'idée de consécration, de rendre sacré, ou de sacraliser, enfin, tout ce champ lexical, comme on dit en français, il y a aussi, je pense, l'idée d'une valorisation. Moi, ça m'intéresse beaucoup, ça. Je pense que, effectivement, je l'ai dit dans d'autres endroits, d'autres cours, je crois que l'Église du Christ est le lieu, cette espèce d'espace-temps divino-humain assez génial et assez incompréhensible, mais c'est ce lieu divino-humain où tout est évalué, réévalué, valorisé, augmenté de valeur, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, oui, sur... pas surévalué, si vous voulez, parce que ce n'est pas non plus une tromperie, mais tout acquiert une valeur extraordinaire. Par exemple, l'amour humain dans le mariage, puisque ça vous intéresse. Par exemple, les aliments qu'on prend à table, qui sont bénis ou consacrés, et particulièrement le pain et le vin. Je vous étonnerai pas en disant que ce pain et le vin offerts dans l'Eucharistie prend une valeur extraordinaire. Et qu'il est consacré, par la parole du Christ, que le Christ qui dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Donc cette parole-là a donné à ce pain-là et à cette coupe de vin-là une, pas seulement une signification philosophique, si vous voulez, mais une réalité, une valeur, une importance, un impact, une énergie, un contenu, une vie, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut énumérer encore, vous voyez, qui est justement du domaine de la consécration. La consécration, c'est ce qui valorise au maximum quelqu'un ou une réalité. Donc je pense, dans l'expérience du couple, c'est ça, le couple, c'est le moment où chacun se consacre à l'autre, hein, ou bien chacun consacre l'autre à soi, ou accepte que l'autre soit consacré à soi, une consécration mutuelle. Et donc, mais ça se fait pas dans l'Église. Ça se fait quand le couple se forme existentiellement, chez les amis, dans la rue, dans le train. Moi, je connais des amis qui se sont rencontrés dans l'avion. Ce moment de la rencontre, j'espère que ça ne choque personne, ce moment de la rencontre qui forme le couple est un moment de consécration, parce que chacun devient super important pour l'autre. Il devient même exclusivement important pour l'autre. Donc vous voyez, ici on est en train de toucher à une réalité qui est très importante, c'est que la sacralité ou la sacramentalité n'est pas une dimension rituelle d'abord, n'est pas une dimension religieuse d'abord, elle peut être une dimension existentielle. Et ça, ce n'est pas tellement dit dans les livres, sauf chez le père Schmemann qui dit tout, Et ça, c'est extrêmement important, ça. Donc, l'événement sacramentel, c'est donc l'événement de la valorisation extraordinaire d'une personne ou d'une réalité, et cet événement-là peut se passer dans l'ordre existentiel. Par exemple, on se promène dans la forêt et on rencontre un champignon absolument extraordinaire. On va s'émerveiller devant cette créature. On regarde un coucher de soleil, on entend un chant d'oiseau. Dans la forêt elle-même, la beauté de la création et ce ressenti de la beauté des créatures est aussi un moment de consécration, parce que c'est un moment où ce champignon, ce chant d'oiseau, ce coucher de soleil, cette forêt devient pour moi tellement importante, je m'en souviendrai toute ma vie, je me rappellerai ce champignon. Elle me dit, c'est ridicule, mon histoire de champignon. Alors, on va dire une fleur, si vous préférez. Quoi qu'il y ait des champignons qui sont assez extraordinaires. Vous avez tort. Vous avez tort de contester mon affirmation. Donc, parlons d'une fleur. Donc, cette fleur-là, je m'en rappellerai toute ma vie. Je n'oublierai jamais cette fleur. Je n'oublierai jamais ce moment. Je n'oublierai jamais cette promenade dans la forêt. Je n'oublierai jamais ce chant d'oiseau. L'inoubliable est un phénomène de consécration, parce que ce qui est inoubliable, c'est ce qui a acquis pour moi subjectivement a acquis une valeur pas absolue si vous voulez, mais une valeur extraordinaire, en tout cas une valeur exemplaire et une valeur exclusive, parce que ce coucher de soleil là, aucun autre coucher de soleil ne pourra le supplanter, cette fleur là aucune fleur ne la supplantera, etc. Et donc, ça c'est très important, parce que c'est l'expérience sacramentelle, mais dans le vécu, dans l'existentiel. Et c'est ça que nous devons retrouver et ne pas perdre quand nous allons parler des sacrements activés, si je peux dire, agis, exécutés, c'est pas super comme mot, réalisés, célébrés, officiés dans le cadre de la communauté des baptisés. Mais pour voir que c'est la même réalité, si le baptême, pour parler du baptême, si le baptême n'est pas le moment divin ou humain où cette personne-là baptisée devient absolument irremplaçable et pour Dieu et pour les hommes, devient unique par son nom, par toute son existence, par sa naissance spirituelle à ce moment-là, il faut pas baptiser, faisons autre chose, vous voyez. Donc il y a dans le baptême, on en reparlera, une valorisation extraordinaire de la personne humaine, pas seulement de l'humain en général, ce que le Christ a fait par l'incarnation, on va parler du Christ quand même un petit peu, le Christ est celui qui justement a donné de la valeur à l'homme. Mais le baptême, lui, donne la valeur à l'homme, il donne la valeur à la personne humaine. Et donc c'est une super évaluation, ce bébé-là devient un bébé unique. Unique, il était déjà, les parents en étaient persuadés, ce qui est vrai, hein, là, l'expérience sacramentelle, elle commence quand les parents s'émerveillent de leur enfant. Donc cet enfant-là, même si c'est le premier, vous pensez, même si c'est le dernier, ou le troisième, ou le quatrième, je sais pas quoi, j'ai vu une image sur Internet tout à l'heure, il y a une dame qui a eu 7 enfants, des septuplets. Alors là, bonjour madame, bon courage, elle a dû s'émerveiller, je n'ai pas vu la suite de l'article, mais... Donc il y en avait 7 qui étaient extraordinairement importants d'un coup. Oui. Bon, donc ça, je pense, dans le mot sacrement, il y a quelque chose qui est très très fort, qui est lié, donc, comme je vous dis, de consécration, de sacralisation, quelque chose qui devient sacré pour toi, ou quelqu'un qui devient sacré pour toi, ou un moment qui devient sacré pour toi, pour moi, pour nous, oui. Et c'est très important, c'est très beau, ça, c'est... On voit ça dans les romans, même dans les états. Vous savez, quand les gens étaient pendant la guerre ou les occupations, ou en prison, dans les camps, etc., ils arrivaient à trouver des moments extraordinaires où ils partageaient une tasse de thé, ou des moments de rencontre entre êtres humains qui étaient inoubliables, quand ils en parlent après ça de ce qu'ils ont vécu. C'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier, vous voyez. Des moments de beauté, des moments d'humanité extrême. Dans le danger, dans la mort, dans la souffrance, dans la naissance, dans l'amour. Peut-être ces moments où l'humanité, où le facteur humain acquiert une telle valeur qu'il est justement une valeur exclusive et inoubliable. C'est lié, je pense que la sacralité, parce que j'ai repris le mot inoubliable plusieurs fois, parce que je pense que la sacralité et la sacramentalité inscrit une personne ou une réalité dans le temps. Elle lui donne dans le temps universel, le temps cosmique et le temps personnel, c'est-à-dire la mémoire personnelle, mais la mémoire de la communauté, la mémoire de l'Église, donc par conséquent, la mémoire de la société, hein, parce que c'est pas opposé Église et société, c'est pas très intéressant de faire ces oppositions-là, parce que l'expérience est la même. Donc la sacralité, c'est ce qui est inscrit dans la mémoire, c'est-à-dire le temps humain, le temps social, le temps ecclésial, le temps personnel, le temps familial, le temps conjugal, le temps quoi ce que vous voulez, le temps paroissial, qui inscrit un événement, si vous voulez, qui balise le temps d'une manière irréversible. Merci bien. Avant ça et après ça, on voit ça dans l'expérience paroissiale, par exemple. Je parlais hier dans une paroisse de la d'un paroissien qui était baptisé adulte dans la paroisse et qui est décédé après. Et tout. Ben, ce personnage, on l'oubliera jamais. On l'oubliera jamais. Vous voyez, il y a une inscription dans le temps. Et donc ça, c'est très important. Donc, c'est pas seulement une consécration du temps, mais c'est une consécration dans le temps. C'est une inscription dans la série, quand même, la série, la galerie, je dirais, des événements inoubliables qui marquent la mémoire personnelle ou la mémoire communautaire. Donc c'est très important. Donc le mot sacramento, c'est un très beau mot. Et on a le mot sacrement en français, et on est fiers d'avoir un super mot quand même à employer. Et puis donc, effectivement, son équivalent grec qui dit quelque chose de tout à fait autre. Alors on est bien embêté parce que, en fait, ce que dit le mot grec mysterion ou mystère, ça n'a pratiquement aucun rapport avec ce que je viens de dire. Et pourtant, les deux mots se rapportent au même ordre de réalité. Alors qu'est-ce que c'est que ce terme grec qui donne mystère, eh bien, l'idée d'une réalité qui n'est pas directement accessible. Alors, faire attention, parce que souvent on dit, mais c'est quelque chose qui est caché. Oui, alors du coup, ça c'est un peu les déformations du concept mystère. Comme mystère, c'est les gens qui font des mystères, qui il y a l'idée de mensonge, un peu du cache de caché, ou d'énigme, ou de... Ça, c'est un peu malsain, ce truc-là, si vous voulez. Dans le fond, le mot mystère est plus noble que cela. Il désigne le fait que, mais ça, c'est quand même très important, le fait que la réalité du réel, n'est pas accessible directement. Par exemple, la réalité de l'amour, la réalité de la vie, la réalité de la mort, on est bien embêté pour la conceptualiser, on est bien embêté pour l'expliquer. Les savants, les plus grands savants du monde, ils constatent la vie, ils la décrivent, mais qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Et la mort, c'est pareil, on dit la mort c'est une cessation de la vie, bravo. Alors ça, je trouve cette définition absolument extraordinaire, et vraiment c'est fort, hein, ça. La mort est une cessation de la vie. Oui, nous en plus, on pense pas, les chrétiens, on pense pas ça du tout, on pense tout à fait autrement, on pense que la mort est plutôt une mutation de la vie. Donc mais oui, de toute façon, c'est sur des affirmations comme ça qui prouvent surtout qu'on ne sait pas de quoi on parle. Donc c'est cette dimension-là d'inconnaissable, hein, d'inaccessible, d'incompréhensible, d'inconceptualisable, de transcendant aussi, que désigne le mot mystère. Et c'est pour ça que le mot mystère est intéressant par rapport au mot sacrement. Il apporte une dimension très supérieure quand même que le premier mot n'a pas. Il apporte cette profondeur de l'inconnaissable, de l'inaccessible, et qui pointe en tout cas vers la profondeur du divin dans la vie. C'est pas que ça, parce qu'il y a parmi les réalités invisibles, incompréhensibles, inconnaissables, intangibles et invisibles, hein, il y a d'autres réalités. Il y a des idées, c'est un peu abstrait, mais il y a des êtres, des créatures, il y a les anges, il y a les défunts, il y a les saints. Et puis il y a quand même Dieu. Encore que Dieu, si vous voulez, ne se réduit ni à la visibilité, ni à l'invisibilité. Il est encore au-dessus de tout ça. Mais enfin, Dieu entre, si vous voulez, quand même, dans l'ordre des réalités, si je peux dire. Pardon, monsieur Dieu, vous n'êtes pas plus qu'une quelqu'un qu'une réalité. Mais il entre quand même dans l'ordre des registres qui échappent à la connaissance conceptuelle que l'homme voudrait utiliser. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas être considéré comme un objet de connaissance. Ah, la profondeur de l'être humain, la personne, ne peut pas être considérée comme objet de connaissance. Bon, la mort, on essaye bien, mais on ne peut pas la considérer comme un objet. Ce n'est pas un objet pour la connaissance. Il y a des ordres de réalité que nous considérons quand même comme réels, parce que la mort, ça, la preuve que c'est réel, c'est que ça fait mal. Bon, et l'amour, la preuve que c'est réel, c'est que ça fait bien. Bon, donc on ne peut pas dire que ce n'est pas réel. Et puis, mais cet ordre de réalité, nous ne pouvons pas le prendre comme un objet pour la connaissance. Et pour Dieu, c'est pareil. Donc, ce sont un ordre de réalité qui va être accessible à la connaissance, mais suivant un autre mode de connaissance que la connaissance conceptuelle, et qui est, alors justement, on se rapporte au mot mysterion en grec. Dans le début, il y a, dans mystère, il y a ces trois mots-là, M, Y, S, T, qu'on retrouve dans mystique, mystagogie, et l'idée, pour gagner un peu de temps, dans la culture grecque ou indo-européenne, ceci se rapporte à une idée très intéressante qui est l'idée d'initiation. Initiation, là, c'est la connaissance par initiation. On ne peut pas connaître cette réalité invisible que si on est mis sur la voie par quelqu'un, mais aussi par un geste, par une action. Il faut que quelque chose ou quelqu'un ou une circonstance nous mette sur la voie, nous mette en chemin pour parvenir jusqu'à elle. L'idée de mystère, c'est très intéressant parce que c'est profondément coordonné à l'idée de chemin spirituel, de cheminement. Je vais donner un exemple pour me faire comprendre quand même. Dans le cadre des grands sacrements ou mystères que nous célébrons, comme le baptême ou le mariage, pour parler du mariage toujours, et ne pas vous laisser languir, en disant, quand est-ce qu'il parle du mariage ? Qu'est-ce qui se passe dans les deux cas, c'est que les bénéficiaires, si je peux dire, du sacrement sont conduits, ils n'ont pratiquement rien à dire. Hein. Et souvent, les gens arrivent à dire, une fois qu'on dise quelque chose, non, rien. Oh, ils sont vraiment déçus. Le baptisé, alors, il dit quelque chose, mais avant le baptême, je vous signale, le dialogue pour le baptême, c'est avant le baptême, c'est dans le prêtre, renoncer à Satan, machin, à ses pompes, à ses illusions, ses rares réponses oui, quand même, bon, te joins-tu au Christ, c'est un super dialogue auparavant, pour bien se mettre d'accord, et pour le mariage, c'est pareil, on accueille les fiancés à l'entrée, on dit, madame, une telle, monsieur, un tel, vous êtes d'accord pour prendre ce garçon comme marié, vous, est-ce qu'une fille est la femme de votre vie, enfin, bon, on leur pose quelques questions comme ça, mais ça, c'est avant, ça, ce sont des questions, on va dire, préalables, hein, mais qui n'ont pas le caractère mystique, mystérique, ou mystagogique, ou sacramentel, c'est de la préparation en quelque sorte. Hein. On prépare quelque chose qu'on va faire. On va le faire tout de suite après d'ailleurs. On va baptiser tout de suite après. On va couronner tout de suite après. Celui qui va être baptisé ou celle qui va être baptisée est conduite. On le prend le prêtre. D'ailleurs, quand nous célébrons bien les prêtres, c'est parce qu'il n'est pas toujours le cas. Normalement, nous prenons, c'est très beau, nous prenons celui qui va être baptisé, ou les parrains, si l'enfant est bébé, nous le prenons par la main droite, où nous nous demandons de saisir notre étole, et nous le guidons de la porte de l'église vers l'intérieur de l'église, là où il y a l'évangile, le baptistère, etc. Autrefois, le baptistère était à l'extérieur de l'église, mais on aurait retrouvé le même type de comportement. Dans le cas du mariage, c'est pareil. Une fois qu'on a célébré le mariage, les fiançailles, on a discuté ce qu'on allait faire, etc. Il y a eu alliance quand même, bon. Le prêtre prend les nouveaux fiancés avec leurs flambeaux, les témoins qui accompagnent, et il les fait entrer sans rien leur demander. Il les guide, hein. Il les initie. Il les met sur le chemin, il les met sur la voie, il les met en route, il les engage dans un chemin spirituel, et dans le cadre et du mariage et du baptême, qui se ressemblent beaucoup, ce chemin qui a été initié à la porte de l'église, il se continue, le prêtre toujours tenant par la main, ou donnant son étole à tenir par la main aux époux, aux baptisés, c'est le même rite, il fait, comme vous savez très bien, la procession autour de l'évangile et du baptistère, si c'est le cas, ou de l'évangile seul et la croix, si c'est, ou les couronnes, non, les couronnes sont sur la tête, l'évangile seul dans le cadre du mariage. Mais donc, ça veut dire qu'on est vraiment dans ce, ça c'est très important, c'est ça le mystère, c'est une réalité que tu peux pas expliquer, tu peux pas comprendre, mais tu vas la comprendre en la pénétrant. C'est comme une forêt. Oh, qui peut dire qu'il comprend une forêt? Il faut entrer dans la forêt, il faut marcher dans la forêt, il faut dormir dans la forêt, il faut camper dans la forêt, il faut faire des feux, il faut faire du scoutisme dans la forêt, je ne sais pas quoi. Il faut être guidé surtout dans la forêt, autrement on se perd. Donc il y a des guides pour aller en montagne, il y a des guides, guides pour aller en forêt, il y a des guides pour aller en mer. Il y a des tas de cas, si vous voulez, où nous ne pouvons pas aller seuls, ni en montagne, ni en mer, ni en forêt. Et quoi, il n'est pas très prudent d'aller seul. Donc, il y a des personnes qui ont ce rôle-là de nous guider. C'est ce qu'on appelle, alors donc, sacramentellement parlant ou liturgiquement parlant, c'est ce qu'on appelle les mystagogues. Alors, c'est surtout le très grand Denis l'Aréopagite, qu'on appelle le pseudo-Denis, parce qu'en fait, il y a des discussions sur sa personnalité par l'auteur des écrits en question, c'est-à-dire la hiérarchie ecclésiastique et la hiérarchie angélique. Ce monsieur, qu'en fait qu'on ne connaît pas, a décrit justement ça. Il a dit les actions de l'Église sont les actions mystagogiques, ce qu'il appelle hiérurgie, c'est-à-dire les différentes formes sacramentelles dans l'Église sont des actions dans lesquelles le néophyte, l'initié ou l'initiant est conduit, guidé dans un monde où il désire aller, où il est attiré d'aller, où il est, mais où il ne peut pas aller seul, et en tout cas, ce monde-là, il ne peut le connaître qu'en y entrant, qu'en le pénétrant. Donc l'idée de mystère, c'est vraiment ça, c'est l'idée de pénétration, c'est de l'entrée dans un monde inconnu, inconnaissable, incompréhensible. Et je veux bien donner comme exemple un exemple que j'aime beaucoup, qui est l'exemple de, je regarde l'heure, bon, du roman qui s'appelle Narnia. Je vous recommande fortement la lecture de ce livre de Lewis, Histoire de Narnia. Ça vous dit quelque chose, j'espère. Et donc dans cette Histoire de Narnia, en tout cas le premier volume, ce sont des enfants qui jouent à qui se va s'attraper, à chat perché, ouais, je sais pas quoi, attrape-moi, dans une pièce, hein, et puis se cache. Vous avez vu cette histoire-là? Le film est vraiment très très beau, c'est à pleurer, c'est une très très grande beauté. Donc ces enfants jouent, et puis se cachent pour pas que l'autre le trouve, hein, et il y a une petite fille, je crois, un moment qui se cache dans un placard, où il y a plein de vêtements, plein d'habits, elle se cache là-dedans, elle ferme la porte, et elle bouge plus, et puis, elle n'entend plus rien. Elle se dit, je vais sortir, ils sont partis. Et quand elle veut sortir, elle se trompe de ce côté. Et au lieu de sortir par la porte par laquelle elle est entrée, elle pousse le fond du placard dans lequel elle est enfermée avec les vêtements. Et alors là, quand elle pousse cette porte, elle voit un monde qu'elle n'a jamais vu. Qui est donc le monde de Narnia, qui est un monde absolument paradisiaque, de beauté, de sens, d'intelligence, de sagesse, c'est ça. Et donc le mot mystère se rapporte à ça, au fait qu'on pousse la porte, on pousse une porte. Alors là, dans le roman de Narnia, la petite, elle pousse cette porte accidentellement ou providentiellement. Je ne veux pas dire par hasard, parce que ça aussi c'est un mot qui ne veut rien dire en français. Donc on n'emploie pas des mots idiots. On va dire plutôt providentiellement ou guidé par la main d'un ange. Je ne sais pas, trouvez-moi quelque chose pour ne pas dire le hasard. Et donc elle pénètre dans ce monde en ayant poussé une porte. Donc un mystère, mystère ça peut être un dessert également aussi, mais je vous le rappelle, mais je n'ai pas besoin de vous le rappeler, tout le monde le sait. Un mystère, c'est donc cette pénétration dans un monde, ou dans le monde réel en fait, qui est le monde de Dieu, le monde des saints, qui est ce monde invisible, qui est le fondement en fait du monde visible, qui est ce réel qui est la substance du réel, et donc dans lequel on pénètre de cette façon-là. Donc il faut, c'est une pénétration, c'est une entrée, c'est une pénétration. Et c'est pour ça que le mystère consiste non pas à comprendre, mais à être compris. le baptisé, ou les époux, le nouveau prêtre, les sacrements que vous voulez dans l'Église, il y a quelqu'un qui est compris, qui est intégré, qui est, pas absorbé, c'est un mot, mais avalé, ce serait trop, mais qui est admis, chercher un mot qui ne soit quand même pas péjoratif, qui est admis dans cet univers. Il est compris dans le sens de admis, pris avec. Comprendre, ça veut dire prendre avec. Donc, j'insiste là-dessus parce que c'est fatigant, on entend toujours autour de nous les mêmes réflexions disant « Ah, mais les gens ne comprennent pas, ou les enfants ne comprennent pas, ou les Français ne comprennent pas, ou les Roumains ne comprennent pas, ou nos contemporains ne comprennent pas. » Mais le problème n'est vraiment pas là. ça ne nous intéresse pas qu'on comprenne, parce que justement, on nous parle d'autre chose. Tant qu'on va présenter le christianisme, la vie en crise, comme une réalité à comprendre, on va perdre son temps et on va perdre du monde surtout. Parce que comme les gens ne comprennent pas, on ne les voit plus. Vous voyez, quand je parlais de mes amis qui disent on vient à l'église, mais soit on ne comprend rien, ou c'est vide de sens, c'est parce qu'ils se sont placés dans leur démarche par rapport à l'église et au sacrement, ils se sont placés dans une démarche de connaissance selon le monde, si vous voulez. Donc effectivement, on comparait encore une petite qui a dit à sa maman cette semaine, je ne vois pas pourquoi tu m'as dit, je ne comprends rien. Alors donc en fait, il faut arriver à déjouer ce problème qui est un piège en fait. C'est le piège de la connaissance. Ce n'est pas un problème de compréhension, c'est laisse-toi conduire, laisse-toi admettre, laisse-toi fais confiance. Fais confiance, et la foi, fais confiance et laisse-toi conduire dans ce monde que tu ne connais pas, cet espace que tu ne connais pas et qui est l'espace habité par Dieu, par ses saints, mais qui est l'espace du réel en fait, l'espace du réel. Donc, pour résumer, on peut dire que tout sacrement de l'Église a ce caractère-là, ce caractère de nous permettre d'être conduit sur un chemin, d'être conduit, c'est ça. Kalaosit, comme vous dites en roumain, c'est un très beau mot, ça. Conduit dans une réalité qui est pour nous incompréhensible et donc de nous laisser comprendre par elle. Donc ça c'est. Alors finalement, avec ces deux mots, sacrement et mystère, nous avons deux dimensions magnifiques de notre sujet. On pourrait dire que tout, entre guillemets, sacrement de l'Église se définit par ces deux aspects-là, c'est-à-dire l'aspect de consécration, de supervalorisation d'une réalité ou d'une personne, et cet aspect d'initiation, c'est-à-dire de pénétration dans un réel incompréhensible et inaccessible. Et ça revient tout le temps. Par exemple, dans la déminiturgie que vous connaissez par cœur, quand même, parce que vous l'écoutez, je pense, tout le temps, et que les prières sont dites à voix haute, etc., le prêtre ou l'évêque qui préside dit cette prière de Saint Jean Chrysostome, en disant « Dieu, toi qui es incompréhensible, inconnaissable, invisible, etc. » Vous voyez, on affirme ce caractère incognoscible de la divinité, parce que justement, on est en train de faire autre chose. On n'est pas en train de dire aux gens « Écoutez les enfants, vous allez comprendre, on va vous expliquer. » On leur fait pas un cours sur Dieu, vous voyez. Mais on les conduit, et c'est le rôle des évêques, des prêtres et des diacres, des ministères dans l'Église, des ministères qui ont une activité pédagogique et mystagogique très importante, ce qui était de nous conduire, nous, les fidèles de bonne volonté, dans cette vie en Dieu, cette vie en Christ, cette vraie vie qui est beaucoup plus forte que la mort, qui est l'expérience de la mort de Dieu. Enfin, je parle pas de tout ça. Et donc voilà le sujet. Alors c'est ça qui est intéressant et dans les deux cas, et pour le mot sacrement et pour le mot mystère, il y a cette dimension existentielle que j'ai moins développée pour le mot mystère, mais qui existe quand même. Parce que j'ai parlé des forêts dans lesquelles on pénètre, j'ai parlé de la mer, qui est immense et redoutable. Et si je ne suis pas guidé en mer, je vais me perdre, je vais me casser sur les rochers, je ne reviendrai jamais. Et la montagne. Donc il y a quand même des expériences existentielles qui se rapportent également à la dimension mystérique, mystérieuse, ça prend un sens un peu péjoratif. Enfin, on n'est pas en train de jouer non plus à cache-cache, vous voyez, on n'est pas en train de se moquer des gens, on n'est pas. Le mot mystère, c'est vrai, peut prendre un sens un peu péjoratif. Alors effectivement, je vous lis la citation de Père. De Oui, il dit justement à propos du mot, la définition du mot sacrement, il dit, je vous dis en roumain, on traduira après, Sfinte de Taine, entre parenthèses, Mysterium Sacramentum Tainus Vo, égal, Lucru Ascuns Tainic Neint Teles. Alors, c'est très intéressant, c'est le premier mot, Ascuns, ça veut dire caché, Tainic, ça veut dire mystérieux, mais justement on en parle, et Neint Teles, ou De Neint Teles, incompréhensible. Alors ça touche effectivement à le caractère énigmatique. Il y a quand même des situations dans la vie, des situations qui sont énigmatiques quand même. Justement dans la relation interpersonnelle, on parle du couple, on parle de l'amitié, on parle autrui. On peut aimer quelqu'un quand même. Moi, je, quand même, je pense avoir l'expérience quand même. Mais on peut aimer quelqu'un et la personne qu'on aime, elle demeure énigmatique, inaccessible, incompréhensible. Et si je ne peux pas l'aimer dans son incompréhensibilité et dans son énigmité, si je peux dire, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Si je veux tout comprendre de la personne que je crois aimer, je ne m'en sortirai jamais. Je m'en sortirai jamais. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est l'amour qui nous guide dans le mystère d'autrui et dans l'incompréhensibilité d'autrui. Et ça commence par Dieu, principalement. Si je demande à Dieu absolument d'être compréhensible à partir de demain, de maintenant, ou bien je le laisse, je veux Dieu, je veux tout comprendre de toi, autrement, je m'en vais. Je quitte l'église, je fais autre chose. Mais Dieu nous répond, mais attendez les enfants, venez, on va se connaître, on va s'aimer, on va entrer en communion les uns avec les autres, mais on va se connaître de cette façon-là, on va se connaître par la communion, on va se connaître par le fait qu'on va entrer l'un chez l'autre, l'un dans l'autre, s'interpénétrer. Alors ça, on touche à une réalité qui est très importante, qui se rapporte au mystère trinitaire, qui est le fait que les personnes sont appelées à se contenir l'une l'autre, à se visiter l'une l'autre, à être l'hôtesse l'une de l'autre, ou l'hôte l'une de l'autre. Et donc la compréhension que nous avons les uns des autres, c'est pas du tout une compréhension extérieure qu'essaye de nous donner la psychologie, les sciences humaines. Ils sont vraiment de très bonnes choses, si vous ne voulez pas. Je ne me permets pas de porter de jugement de valeur. C'est très intéressant, c'est vrai, mais pour nous, avec ce que nous recevons de l'Église, ce qui est important, c'est justement le caractère inaccessible d'autrui et le fait que je ne peux connaître autrui que pas en devenant qui il est, mais éventuellement en devenant ce qu'il est. Et avec le Christ, par exemple, c'est très très fort. Nous ne sommes pas appelés à devenir qui il est, mais à devenir ce qu'il est. C'est-à-dire, l'histoire de divinisation, ça va très 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 loin, ça. Donc, nous connaissons Dieu en devenant ce qu'il est. La connaissance de Dieu, c'est la déification, c'est pas autre chose. Toute autre forme de connaissance de Dieu est une imposture, en fait. Ça veut dire que c'est une transformation de Dieu en objet de connaissance. On revient à la case de départ de tout à l'heure. Bon. Et dans la relation interpersonnelle, c'est pareil. Je ne peux pas, la personne que j'aime, la fille que je vais épouser, ou le garçon que je vais épouser demain, je ne peux pas le transformer en objet de ma connaissance, de ma compréhension. Je dis ça parce que je suis prêtre depuis 40 ans, j'ai entendu beaucoup de choses, et une de mes amies que j'aime beaucoup, une amie roumaine qui est très sympathique, mais elle est très... Elle m'a sorti des choses d'un petit peu dures. Elle m'a dit, je vois plus avec ce garçon très sympathique que vous m'aviez présenté il y a 15 jours. On me dit, non, j'en ai fait le tour. Hein. Puis il me saoule. Et elle pensait qu'elle a tout compris de lui, donc elle le jette. Elle en prend un autre. Elle pensait vraiment avoir tout. Quand elle m'a dit, j'en ai fait le tour. Hein. Ou je sais tout de lui. Alors, c'est-à-dire que ce garçon-là, il ne m'apporte plus rien, c'est-à-dire que j'ai épuisé son mystère, j'ai épuisé sa... Alors, soit c'est que le garçon vraiment était complètement plat comme cette table, soit que c'est plutôt cette fille qui, dans sa démarche de connaissance, n'est pas très profonde, en fait. Elle s'arrête vite sur le chemin de la connaissance, on dit, bon, voilà, j'ai tout compris de ce gars-là. Mais regardez-vous qu'il y avait des enfants et des parents qui sont là, mais nos enfants sont incompréhensibles pour nous, ils sont absolument énigmatiques. Je dis, c'est pas possible, c'est pas ma fille, c'est pas mon fils. Comme disent les gens, je me reconnais pas. C'est pas, c'est un enfant, on a dû le changer à l'hôpital, c'est pas possible, je me reconnais pas dans ce gamin. J'entends ça aussi, hein. Donc ça veut dire que le caractère énigmatique d'autrui, que ce soit le conjoint, mais j'insiste là-dessus, dans le mariage, c'est très très important. Il faut préserver le caractère mystérique ou mystérieux ou énigmatique ou incompréhensible de d'autrui. À mon avis, ce n'est pas vivable autrement, parce qu'on est agacé tout de suite partout, on comprend tout, on voit, on explique. Enfin, je me rappelle d'avoir des conflits en paroisse avec une personne, et elle pensait avoir tout compris de moi, parce que c'est une personne qui était une psychologue. Et donc dès que je lui disais quelque chose, elle m'expliquait pourquoi j'avais fait ça, pourquoi je ne l'avais pas fait, pourquoi j'avais dit ça, pourquoi je ne l'avais pas dit. Enfin, elle avait explication, donc j'étais classé dans tout un système qu'elle avait appris dans ses études, etc. Mais je revendique, moi en tant qu'être humain, je revendique mon incompréhensibilité, s'il vous plaît. Je ne suis pas si compréhensible que ça, je ne suis pas si simple que ça, mais cherchez encore. Mais ça peut arriver, ces genres de situations. Oui, c'est très important. Donc vous voyez, on touche là à une réalité qui est aussi de l'ordre existentiel. Et ça, j'y tiens beaucoup. Moi, je ne veux pas arriver à parler du baptême ou n'importe quel sacrement de l'Église sans partir de ça. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je pense qu'il y a des professeurs, des théologiens, etc., qui font autrement, qui vont vous faire un cours sur les sacrements de l'Église directement comme ça. Moi, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je veux partir de la vie. Je veux partir de l'expérience existentielle du sacrement et du mystère, et voir comment, en fait, ceci a été, pas domestiqué, mais stylisé. Alors, c'est intéressant. Ceci a été stylisé par le rite de l'Église. Alors, on touche à quelque chose qui est très important, que je suis en train d'inventer immédiatement. Donc, ne bougez pas, l'Esprit Saint est au travail. Je dirais volontiers que les rites de l'Église, c'est ça, j'essaie de peaufiner mon langage, que les rites de l'Église, concernant le baptême, etc., tout ce qu'on va dire, ce sont des stylisations de l'expérience existentielle. C'est fort ce que j'ai dit là. Répétez ce que je viens de dire. Mais c'est vrai. Regardez l'icône. L'icône a un caractère sacramentel très intéressant. Prenons une icône de la Mère de Dieu. Prenons, on va la prendre mentalement, virtuellement. Là, j'ai sur mon téléphone. Prenons. Mais l'icône de la Mère de Dieu, qu'est-ce que c'est? Excusez-moi. C'est une maman qui a un bébé, qui lui fait des bisous et des câlins, et à laquelle ce bébé répond par des bisous et des câlins. Expérience existentielle. Vous êtes d'accord avec moi? Et l'icône stylise cet événement magnifique de l'amour d'une maman pour son enfant et d'un enfant pour sa maman, parce qu'il n'y a peut-être pas autre chose. Vous allez me dire, mais si, les animaux aussi regardent, les chats, elles jouent avec leurs chatons, bon d'accord, mais même ça, c'est pourquoi pas, moi je veux bien. Disons aussi que dans la nature, dans beaucoup de registres de la nature, on voit des formes d'affection entre les parents et leurs petits, même, vous savez, les espèces de poissons, c'est très intéressant, ce sont des poissons qui s'occupent beaucoup de leurs petits, alors ils les pondent sous une pierre, ou dans un aquarium, on leur met un pot de fleurs cassé pour qu'ils puissent se mettre dedans, et ils mettent leurs petits là-dedans, ils pondent sur les parois à l'intérieur de cette petite cachette, hein, et ils sont deux, monsieur et madame poisson, ils s'occupent de ça très très bien, et quand les petits sortent, ils les laissent se promener un peu, et ils les prennent dans leur bouche, pour pas que d'autres les mangent, ils les remettent dans là, qui s'en occupent avec une attention, et puis monsieur poisson est là, qui se fait rouge comme ça pour faire peur à l'ennemi, et madame poisson s'occupe des petits, et que je pense quand elle les prend dans sa bouche, elle les nourrit aussi, il y a des muqueuses dans la bouche de la maman poisson qui nourrissent les bébés, enfin, donc ils s'en occupent beaucoup, donc il y a des tas, on trouve des tas d'exemples dans la nature, on verrait que des parents s'occupent de leurs petits, enfin bon, il y a des exemples innombrables, mais dans le cas précis, l'amour d'une mère pour son enfant chez les êtres humains que nous sommes, que nous essayons d'être tant bien que mal, c'est quelque chose de sensationnel. Et là, il s'agit encore d'autre chose. Existentiellement, il s'agit d'une maman qui a mis au monde le Dieu homme et qui fait des câlins et des bisous au Créateur du monde fait homme. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire et c'est quelque chose qui est arrivé. C'est quelque chose qui s'est passé, c'est quelque chose qui a une réalité existentielle attestée par des gens qui l'ont vu, bah, ne serait-ce que dans l'Évangile, les braves mages qu'on aime beaucoup, des gens extrêmement sympathiques, avec des chapeaux magnifiques, c'est très, très beau, là, voilà, mages, ils sont venus et ils ont constaté ça. Vous voyez? Et donc l'icône, celle-là, sa valeur sacramentelle, elle consacre ça, c'est-à-dire qu'elle en fait elle a une valeur irréversible, et elle le stylise pour le présenter à notre quête du sens, notre quête de vérité, et elle nous, en tant qu'icône, elle nous montre la porte qu'il faut pousser pour entrer dans ce mystère. Et c'est pour ça que certains, je pense que c'est le père Michel Queneau, a dit, je crois que l'icône est une porte vers l'invisible, ce qui est très intelligent d'avoir dit ça. L'icône, tu pousses cette porte, tu n'entreras pas dans le monde de Narnia, mais presque plus. Et en poussant cette porte de l'icône, tu peux entrer dans la profondeur du mystère divino-humain, de l'amour de Dieu, de l'incarnation, toute super réalité dont nous parlons. Donc ça, donc je tiens beaucoup à ça. Ça, c'est ma méthode à moi, excusez-moi. On part du vécu, on part de l'existentiel et on voit comment le sacrement le stylise. Par exemple, le baptême reprend un événement extraordinaire qui est l'événement de la naissance biologique. Il reprend aussi un événement extraordinaire et très très insupportable, qui est l'exemple, l'expérience de la mort. Parce que le baptême, c'est une mort. On noie quelqu'un trois fois et il ressuscite au bout du compte. Donc ce sont des vécus, les vécus du Christ, tels qu'il les rapporte dans l'évangile, qui est stylisé dans ce sacrement, qui est stylisé dans ce rite. Donc vous voyez, l'idée de styliser, ça veut dire donner une forme. C'est pas facile pour moi d'arriver à dire des choses compliquées, plus compliquées que mon cerveau. Styliser, ça consiste à donner une forme permanente, significative et normative, cherchez l'expression, à une réalité. Donc c'est très très loin de l'arbitraire, c'est très très loin de la fantaisie, c'est très très loin de n'importe quoi. On parvient à une forme qui va être qu'on va pouvoir présenter à tous comme chemin de connaissance, justement. Ça, c'est super intéressant. Super intéressant. Et ça, vous ne trouverez pas... Enfin, tout ça, ça revient globalement, c'est du chemin-manisme, si vous voulez. Donc là, j'étais sur la première ligne de ce que j'ai préparé ce soir. Et alors, oui, notre bon père Branicht, alors, si de l'État est né... sont des services, des offices de l'Église ou ecclésiastiques, plin milochiria carora, par le moyen desquels ni sympathachestes nous est communiqué in kip special, d'une façon spéciale, chiprin anumitis semne, et par des signes particuliers, formei vesute, visibles, haru dumnezu, la grâce de Dieu, in scelema et les même moment dans les moments les plus importants, les circonstances imprejurei, les moments et les circonstances les plus importantes de notre vie. Alors, non, c'est très intéressant ce qu'il dit en fait. C'est pas si académique que ça, c'est très profond. Ce qui est profond dans ce qu'il dit, c'est et que je n'ai pas dit d'ailleurs, donc ça, on avance quand même, c'est qu'il dit que la grâce de Dieu vient par le moyen, hein, oui, par le moyen, tant pis, on va dire ça comme ça pour le moment, dans le moment sacramental, mais ce que j'ai dit tout à l'heure, il se passe quelque chose, si je l'ai dit tout à l'heure, il arrive quelque chose, il se passe quelque chose, et qu'est-ce qui arrive? C'est justement la grâce de Haru le Dumnezeu, la grâce de Dieu vient dans les moments et les circonstances importantes de notre vie par le biais des sacrements. Alors c'est très important parce qu'il rejoint finalement le côté existentiel. Qu'est-ce que sont les moments importants de notre vie? C'est la mort, l'amour, la souffrance, manger, boire, vivre, je ne sais pas quoi. Bon. Et la plupart des sacrements consistent à consacrer ces moments importants de notre vie et leur donner aussi et éveiller notre conscience à leur valeur mystérique et profonde. C'est comme si on disait à quelqu'un, attends, ce que tu vis là, excuse-moi, c'est vachement plus profond que ce que tu penses. Voilà, une partie de nos étudiants doit se retirer. À bientôt. Bon. Voilà, donc c'était... ça, je tiens beaucoup à cette première partie. Je vais certainement y revenir un moment ou l'autre. Alors, il y a un deuxième point que je veux aborder pour avancer. C'est la distinction entre sacrement et symbole, ou sacrement et symbolisme. Oui, et allégorie à plus forte raison. Alors, celle-ci, ça vient de ma position, vient directement en fait, des écrits de Père Schmemann. Il s'est beaucoup donné de mal là-dessus. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, pour rendre au sacrement sa réalité effective. Dire que les sacrements sont les symboles, enfin, extrêmement attention, hein. Extrêmement attention à ce qu'on veut dire par là. Parce qu'en français, le mot symbole, vous me contredirez si vous pensez autrement, je peux me tromper, mais le mot symbole a au moins deux sens. Soit il désigne une réalité absente, c'est vraiment le symbole, c'est la personne qui a léché son chapeau, est partie d'une pièce, elle a laissé son chapeau dans la pièce, le chapeau devient le symbole de monsieur un tel, c'est-à-dire qu'il représente un absent. C'est le chapeau de Père Jean, mon ami Père Jean, il a un chapeau. Quand il le laisse, on sait que c'est le chapeau de Père Jean. Donc, il désigne un absent. Alors, éventuellement, ce symbole, ce n'est pas le cas du chapeau, mais peut symboliser, prendre une forme significative qui va représenter. Alors, on est dans là. Donc, ici, le symbole représente. Mais on n'est toujours pas dans le sacrement, je le signale. Hein. On parle d'un signe le signe d'une absence, en fait. Bon. On parle d'une représentation. Et après ça, on va dire que éventuellement, il y a certains symboles un peu plus développés qui sont des allégories, c'est-à-dire des figures abstraites d'une idée. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une allégorie ? Ben, l'exemple d'une allégorie, c'est par exemple l'allégorie de la mort. Alors, l'allégorie de la mort, on voit un vieux squelette absolument horrible, couvert d'une méchante couverture pleine de trous, et tenant à la main une faux. Bon, alors, ça s'appelle l'allégorie, c'est ce qu'on voit sur les cartes à jouer. Le tarot, etc. Voilà, le jeu de tarot est un jeu extrêmement intéressant, mais le tarot, il nous montre des allégories. Alors ça, c'est vraiment... Alors tout ce registre-là, symbole, représentation, allégorie, et à plus forte raison, symbolisme, c'est-à-dire construction de symboles, ça, c'est je sais pas comment dire, ça devient très vite intellectuel, parce que c'est-à-dire qu'on remplace une présence par l'idée de cette présence, et on figure cette idée par un signe. C'est ce qui se passe. Je ne sais pas si vous parlez des symboles mathématiques. Oui, les symboles mathématiques, je sais pas, c'est difficile d'en parler. Là. C'est peut-être encore un autre domaine. Mais le symbole mathématique n'est pas le signe d'une présence. Il est l'articulation de valeurs. Ce sont des valeurs mathématiques, si je ne me trompe pas. Faut demander à des gens. Des valeurs mathématiques, des grandeurs, en géométrie surtout, mais je pense dans les autres domaines aussi, et ces valeurs, ces grandeurs mathématiques sont figurées ou signifiées par des chiffres, des équations, des symboles mathématiques, vous voyez, mais tout ça, c'est quand même du domaine des idées. Alors le sacrement, c'est tout à fait autre chose. Le sacrement n'est pas du domaine de l'idée, il est du domaine de la présence. Alors ça veut dire que le mot symbole, moi je veux bien qu'on l'emploie, mais je m'en méfie beaucoup, je veux bien qu'on emploie le mot symbole à propos du sacrement, mais à condition qu'on emploie ce mot avec vraiment une précaution supplémentaire, c'est-à-dire attention, je l'emploie ici dans son sens étymologique, c'est symvallo en grec, c'est-à-dire mettre ensemble. Vallo en grec, ça veut dire jeter, opposer. Et Simvalo, je pose ensemble ça et ça. Et le ça, c'est le. Et un, je pose ensemble du visible et de l'invisible. Et cette position, cette coposition d'une réalité visible et d'une réalité invisible qu'on peut appeler symbole. Dans ce sens-là, je suis d'accord qu'on peut parler de symbole pour même l'icône à ce moment-là, si vous voulez. L'icône est le signe visible d'une présence invisible dans ce sens-là. Mais je pense qu'il faut vraiment faire attention de ce mot. Dire que l'icône est un symbole ou que l'icône est un objet symbolique, je me méfie beaucoup. Je crois que ça affaiblit beaucoup quand même l'idée de symbole, l'idée de symbolisme affaiblit considérablement notre conscience du sacrement. Considérablement quand même. Pour des raisons culturelles, si vous voulez. Je sais que Maxime Kowalewski, à qui je dois beaucoup, comme vous savez, comme je dois beaucoup au père Schmemal, Maxime Kowalewski était qui était un grand mathématicien, un grand liturge et un grand théologien de la liturgie. Enfin, un grand liturge, peut-être plus qu'un théologien, Maxime Kowalewski était très très opposé à l'emploi du mot symbole pour désigner le monde liturgique. Hein, voyez. Bon, en même temps, il faut bien parler de quelque chose, parce que vous voulez, je pense qu'il y a quand même des symboles liturgiques qui font partie, si vous voulez, du système de signes liturgiques qui est employé dans le monde sacramentel. Il y a quand même, je sais pas, l'eau, le feu, etc. Mais faire attention, l'eau n'est pas. Je suis désolé, quand l'eau est consacrée par la prière de l'évêque ou du prêtre, la prière de l'Église, dans la grande bénédiction des eaux, l'eau n'est pas le symbole du Jourdain, l'eau est. Tenez-vous bien, l'eau est l'eau du Jourdain, elle devient l'eau du Jourdain. Quand le Christ dit ceci est mon corps, ça ne veut pas dire que le pain est le symbole du Christ. Le Christ dit ceci est mon corps, et le Christ ne dit pas ce pain va représenter mon corps. On va dire que. Oui, c'est assez important ça. Et donc le père Schmemann s'est beaucoup battu pour ça. Je m'associe à son combat pour le réel. Et il dit une chose très intéressante, il dit que la désaffection des chrétiens à l'égard de la liturgie, du culte, parce que quand même il faut reconnaître qu'une partie importante de nos baptisés est à l'extérieur de l'Église. Est absente de nos offices et tout, bien ça viendrait d'après Schmemann du fait que justement elle a transformé l'expérience chrétienne en religion, c'est-à-dire en système de symboles plus ou moins compréhensibles qu'il faudrait expliquer éventuellement, mais dans lequel il n'y a pas une effective réalité. Alors nos amis catholiques ont été confrontés à ça, ils ont sorti cette idée de ce qu'ils appellent la présence réelle. Alors, il y a la présence réelle qui est sur l'autel, mais très localisée dans les dons consacrés, dans les hosties. Alors ça veut dire que cette présence réelle, alors c'est une belle expression quand même, mais qui est très très localisée, ça veut dire qu'en fait ça limite aussi cette présence. Je pense que l'expérience orthodoxe, c'est-à-dire traditionnelle de l'Église, est beaucoup plus globale, et nous sentons, nous ressentons, nous savons, et nous croyons, etc., et nous pensons que la présence de Dieu, elle est partout dans le monde entier. Nous parlons d'omniprésence de Dieu, quand la fameuse prière du Saint-Esprit, que j'aime beaucoup, comme vous, on dit « toi qui es partout présent ». Pas seulement présent là, dans l'église, ou sur l'autel, mais partout, partout présent. Dans cette omniprésence de Dieu, ça va très très loin, si vous voulez. C'est-à-dire que je vais y venir tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a une sacramentalité de la création elle-même, du coup. Bon, donc vous voyez, méfions-nous. Et ben, je prends position dès le début, quitte à assumer les observations qui pourraient m'être faites, ou les critiques, ou les contestations, je prends position dès le début pour bien démarquer le sacrement du symbole, du symbolisme, et à plus forte raison de l'allégorie. Par exemple, le père Schmemann, par exemple, était très opposé à ce qu'il entendait, qu'on trouve même chez certains écrivains, Saint-Nicolas Cabasilas, qu'on aime beaucoup, et si vous voulez, il tombe là-dedans quelquefois, il vous dit, imaginez, je sais pas quoi, l'entrée, la petite entrée du avec l'évangile dans la liturgie, ben ça représente l'entrée du Christ à. Ça, c'est de l'allégorie. On transforme la liturgie en allégorie, une allégorie du Christ à Jérusalem, une allégorie du Christ prêchant. Mais la liturgie n'est pas allégorique. Il ne faut pas laisser faire ça. Il ne faut pas laisser réduire l'action liturgique à une allégorie. Vous voyez que ce qui se passe là, c'est que le Christ, effectivement, à ce moment-là de la liturgie, entre, se rend présent est présent dans la communauté des croyants. Oui. Bon, donc on pourra y revenir, ça va être un peu tout le temps, parce que symbolise, on emploie ça. Et j'ai rencontré justement ce samedi dernier, au cours d'un pèlerinage, un monsieur très, très intéressant, et qui fréquente une de nos paroisses, mais je pense qu'il est vraiment... Il a dû entrer dans l'église orthodoxe quand même, parce qu'il est chrismé, etc. En fait, il n'est pas orthodoxe du tout. Ce monsieur-là, c'est un Français très intelligent, très intellectuel, et il s'intéresse au symbolisme, enfin, si vous voulez. Comme ça, si vous voulez, c'est l'influence aussi de certains mouvements occidentaux, comme la franc-maçonnerie, comme le... oui, je pense que la franc-maçonnerie joue un rôle important dans ce domaine-là, dans la promotion... Du symbole, c'est-à-dire en fait, il n'y a plus rien, si vous voulez, tout est symbolique, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus rien, il n'y a plus que des idées figurées. C'est ça, le symbole, c'est la figuration d'une idée, mais ce n'est pas une présence. Enfin bon, on peut en reparler évidemment. Ensuite, alors je regarde, j'ai encore du temps, bien sûr, là, j'aimerais revenir sur justement. Ce que j'ai commencé à dire à propos de la création. Et donc, je voudrais parler de la création et de sa sacramentalité, en fait. Parce que, à l'instant, je fais déjà allusion à ce thème, que, comment dire, la création a par elle-même une valeur sacramentelle. Quand Dieu, dans le principe, crée le ciel et la terre, qui dit que c'est bon, que c'est beau, qui crée l'homme, faisons-le à notre image. Quand il crée tout ça, il est présent, il atteste sa propre présence au milieu de ses créatures. Il atteste que ses créatures sont ses créatures, qu'il n'est pas absent d'elles. Ce ne sont pas, il atteste que ces créatures ne sont pas des objets. Ce ne sont pas des choses. Dieu ne fabrique pas des choses. C'est pour ça de dire qu'en grec, c'est un peu... c'est pas très facile, la traduction grecque de la Bible ne rend pas compte du texte hébreu. Le texte hébreu n'emploie pas un mot pour dire... pour parler de la création, il n'emploie pas un mot, il n'emploie pas le mot fabriquer. Et en grec, si vous voulez, le mot pio, piin, est un mot qu'on emploie pour fabriquer une table, fabriquer une chaise, à la rigueur, faire un poème, bon, c'est déjà pas mal, c'est peut-être un peu mieux, mais enfin, donc il y a quand même l'idée quand même de fabrication, de fabrication d'un objet par un aspect d'artisan, un dieu qui serait une espèce de grand artiste, un grand artisan de l'univers, qui fabriquerait, l'image est reprise dans la Bible, on la trouve souvent, je ne sais plus dans quel passage de la Bible, mais je pourrais vous retrouver, où on parle du potier, et du pot. Dieu est comme un potier qui fabrique un pot, il le façonne. Mais il faut se méfier aussi beaucoup de ça. C'est très pauvre comme image. Ça, c'est-à-dire qu'en fait, on montre un Dieu qui fabrique des objets. Et ça, je pense qu'il ne faut pas laisser faire ça. Il ne faut pas laisser courir cette idée-là parce que les hommes ne sont pas des objets pour Dieu et les créatures ne sont pas des objets pour Dieu. Ce sont des créatures. Donc, par exemple, c'est pour ça qu'il ne faut pas parler de... Il faut éviter le mot « chose ». C'est un très mauvais mot, oui, dans le domaine théologique, dans le domaine biblique, c'est un mot à bannir, vraiment. Il y a des mots comme ça qu'il faut vraiment bannir. Il faut bannir le mot chose, bannir le mot hasard, bannir le mot nécessité, bannir les mots il faut, on doit. Il y a toute une partie du vocabulaire, si vous voulez, qui n'a aucune circulation dans le langage biblique et théologique. Donc ici, créer ne veut pas dire faire. Créer, c'est faire être. C'est pas faire, c'est faire être. C'est faire exister. C'est, comme on dit dans les textes liturgiques, on dit partout, c'est appeler ou conduire du non-être à l'être. Ce qui est totalement incompréhensible. Mais c'est pas la fabrication d'un objet. Et même dans le cas de, justement, dans le cas de l'homme, le cas de l'homme est un peu particulier, parce que le cas de l'homme, justement, n'est pas un cas de création à partir du néant. Donc c'est un peu particulier. L'homme, ce que vous voulez, l'être humain n'a pas été créé à partir du néant. Mais non. Non, il a été façonné à partir d'éléments préexistants. comme tout le monde le sait, Dieu a pris la terre, il en a fait de la boue, il l'a façonné, il l'a modelé, et l'être humain est le modelage des mains de Dieu. On va réfléchir autrement ici, on va dire que de toute façon quand même l'être humain n'est pas un objet, n'est pas donc seulement un pot façonné et modelé par le potier. La preuve, justement, Dieu a fait ce qu'il fallait pour cela, c'est que Dieu a inscrit en lui sa propre image, ou le sceau de sa propre image, et après ça il lui a donné une partie de son souffle. Donc, ce qui évite justement à l'être humain d'être un objet. Donc ici, vous voyez, c'est assez important. L'idée de création, ça veut dire que le monde, d'abord le mot monde, nous ne l'employons pas trop. Ça, c'est du registre philosophique. Monde, en grec, c'est cosmos ou ksisis. Mais ça, cosmos, c'est un mot intéressant, ça veut dire un ordre. Comme dit Baudelaire, le grand Baudelaire dans Les Fleurs du Mal, et à propos du genre de paradis qu'il évoque, dit là tout n'est qu'ordre et beauté, dans l'invitation au voyage de Baudelaire, c'est très grand. Mais ça, c'est vraiment une vision grecque des choses. Le monde est un homme, mais c'est pas ça qui caractérise. Ce qui fait la beauté du monde, c'est pas qu'il soit un ordre, c'est qu'il soit le monde de Dieu. C'est ça qui fait sa valeur sacramentelle. Hein. C'est que ce monde est le monde de Dieu. Un monde qui a, c'est pas qu'il a un propriétaire, si vous voulez, mais qui a un sujet derrière continuellement, qui atteste son existence, qui veut son existence, qui veut qu'il soit, qui le fait être, qui le maintient dans l'être également, et qui se rend transparent à lui. La vision naturelle que nous devons avoir de la création, c'est que si nous voyons par exemple une fleur, cette fameuse fleur dont je parlais tout à l'heure, cette fleur, c'est la fleur de quelqu'un. C'est la fleur de Dieu, c'est la fleur créée, parce que c'est une créature de Dieu. C'est pas la chose fleur, c'est pas la fleur chose ou la chose fleur. C'est pas une chose appelée fleur. C'est cette réalité si belle et si merveilleuse, elle est la fleur de quelqu'un. Il y a derrière elle quelqu'un qui me la donne, qui me la propose, qui la fait être, qui me la montre, qui me la fait humer et qui m'inspire. Par son esprit, de l'admiration et de l'émerveillement pour elle, pour arriver moi aussi à dire comme c'est beau. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu a dit ça au moment de la création, à propos de chaque jour, il a dit comme c'est bon, ou c'est bon et beau, tov, en hébreu, c'est bon et beau. Donc le monde qu'on appelle donc création, pour employer des mots plus justes, les réalités, les créatures, ce sont des réalités qui sont. Qui suscite, j'allais dire l'objet, non, qui suscite l'émerveillement de Dieu, l'amour de Dieu. Imaginez ça, que Dieu, voyant un jour, deux jours, trois jours, dit « Comme c'est beau !»« Comme c'est beau !» Et de même qu'il s'est admis dans son incarnation, il s'est émerveillé de la foi du centurion, il s'est dit « Grande est ta foi !» À la femme, c'est la samaritaine, je ne sais plus, ou la cananéenne. Oh, femme, grande est ta foi. Qu'il advienne selon ta foi. Vraiment, oui. Dans cette capacité, si je peux dire, qu'a Dieu de s'émerveiller des créatures, c'est ça qui leur donne aussi leur réalité sacramentelle. Et Dieu dit, c'est une très belle expression, et je crois que c'est dans le prophète Isaïe, je n'ai pas noté la référence. Mais Dieu dit par la prophète d'Isaïe, il dit ça à son peuple et à chacun d'entre nous, il dit « Tu as du prix à mes yeux ». Ça c'est dans le prophète Isaïe, « Je t'aime, tu as du prix ou de la valeur à mes yeux ». C'est-à-dire que, oui, on revient à ce qu'on disait à propos des sacrements tout à l'heure. Le sacrement c'est la valeur, c'est de l'ordre de la valeur. Mais une valeur, s'il n'y a pas de valeur en soi, il y a la valeur pour quelqu'un qui lui donne de la valeur, qui apprécie, qui l'apprécie, qui l'apprécie. Qu'il évalue, qu'il l'achète éventuellement pour ce qu'elle vaut, il en donne le prix, je ne sais pas. Encore ça, c'est quelque chose de très très relatif. Nous savons très bien que le Christ lui-même a été vendu pour une somme ridicule, pour 30 deniers. Il n'y a même pas de quoi s'acheter un café avec ça. Enfin bon. Donc, il y a quelque chose qui est. Dans cette valeur, il y a aussi. il y a aussi l'inappréciable. C'est précieux, mais c'est sans prix. Précieux, ça veut dire qu'il y a du prix. Mais c'est ça. On peut jouer sur les mots. Si on aime quelqu'un, cette personne a du prix. Elle est précieuse pour moi parce que je l'aime. Et en même temps, cette personne-là, elle est inappréciable. Elle n'a pas de prix. Je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais donner, sauf que Dieu nous dit, la seule chose, la seule valeur que tu pourrais donner, la seule contre-valeur que tu pourrais donner pour quelqu'un, c'est ta propre vie. C'est ta propre vie. Ça, c'est... Vous savez, c'est sensationnel, la révélation. C'est sensationnel. Sensationnel. Et ce monde de la valeur, pour moi, c'est très important. Ce qui fait la sacramentalité de la création, la sacramentalité de l'homme lui-même, c'est le fait que Dieu donne sa propre vie pour ce monde, donne sa propre vie, ou est prêt à donner sa propre vie pour l'homme et pour le monde. Le monde vaut la vie de Dieu. Le monde vaut la vie de Dieu. Qu'est-ce que coûte le monde ? Le monde vaut la vie de Dieu. Et ça, le Christ l'a montré, le Verbe incarné l'a montré sur la croix. C'est sur la croix qu'il a montré quel prix la créature, et particulièrement la créature humaine, avait à ses yeux. C'est magnifique, oui, c'est magnifique. Et ça, c'est le fondement, justement, des sacrements et des mystères. Vous voyez, cette valorisation des créatures. Mais on n'est même pas dans le rite, là, on est dans le réel, si je peux dire, dans l'existentiel, dans le vécu, parce que les rites sont apparus beaucoup plus tard dans l'histoire du monde, beaucoup plus tard, ils sont arrivés après la chute. Le rite n'est pas paradisiaque, j'espère que je ne scandalise personne, mais le rite n'est pas paradisiaque. Le rite appartient à la chute, il a été concédé par Dieu à l'homme pour des raisons pédagogiques, parce qu'il fallait aider l'homme justement à être remis sur le chemin de cette familiarité, de cette évidence première que Dieu est partout présent. Et ça, c'est vraiment très très important tout ça. Donc c'est ça que je voulais dire, vous voyez. Et par exemple, le père Schmemann, justement, dans « Pour la vie du monde », c'est page 51, je crois, vous le relirez, je n'ai pas le temps de lire les choses finalement. Il parle du temps, et donc c'est très intéressant. Il parle aussi de la dévaluation du temps, et qu'il a, parce que c'est ça le péché, si vous voulez. Du Père Stanislaw, il parle de ça aussi dans sa dogmatique. Il dit que le péché, c'est l'opacification du réel. Et le péché est une dévaluation. Le péché est une sécularisation, si vous voulez, mais c'est une dévaluation des choses. Donc, plus rien n'a de valeur, l'homme n'a plus de valeur, le monde n'a plus de valeur, il n'y a plus que des choses à exploiter, à vendre, à échanger ou à faire souffrir. Et donc le temps lui-même, on le perd, on le gâche, on est pressé, on est stressé. Encore le Père Schmemann, il écrit ce livre-là, pour la vie du monde, il écrit, ça a été réédité en 2007, mais il a écrit en anglais, il a dû écrire ça bien avant. Il a dû écrire ça au cours des années 1950. Mais on vit dans un monde qui est beaucoup plus précipité qu'il ne l'était dans les années 50. Le développement de la technologie est considérable. Donc en fait, cette dévaluation du temps, cette perte du temps, et cette démolition de la temporalité, elle s'est beaucoup, beaucoup accrue. Et alors à l'inverse, le texte biblique lui-même et la vie liturgique à plus forte raison est un ordre d'évaluation du temps, de valorisation du temps et de richesse du temps. Le temps, ça le Père Stanislaw l'a beaucoup montré, c'est un des plus beaux thèmes dans la théologie de Père Dumitru, c'est justement ce qu'il dit à propos du temps. Il dit que le temps c'est le lieu, et le temps est un sacrement, le temps est un sacrement parce qu'il est le lieu de la rencontre de Dieu et de l'homme. Il est le temps qui est donné au dialogue divino-humain, mais pas seulement au dialogue divino-humain, il est la possibilité donnée également au dialogue d'homme à homme, ou d'homme à femme, entre les personnes humaines. Et donc c'est ça, la sacramentalité du temps vient du fait que c'est le, Donc là, le moyen de la rencontre, le moyen de l'amour, parce qu'il faut du temps pour aimer, il faut du temps pour reparler, il faut du temps pour s'écouter, il faut du temps pour cheminer ensemble, etc. Et l'histoire du salut que représente justement, pas que représente, mais que décrit la Bible, c'est l'histoire du temps. On appelle ça l'histoire du salut, mais c'est le temps dans lequel Dieu marche avec l'homme et l'homme marche avec Dieu. Donc c'est un temps qui a de la valeur, c'est un temps qui est rempli, un temps qui n'y a pas de vide. C'est un temps qui n'admet pas de vide. Tous les jours, à chaque moment, il se passe quelque chose avec Dieu. Vous voyez. Et donc ça, c'est assez important. Donc la sacramentalité du temps, on pourrait parler également de la sacramentalité de l'espace, bien sûr. Hein, les deux créatures fondamentales que sont l'espace et le temps sont des créatures qui ont justement leur valeur sacramentelle. Il y a un sacrement de l'espace qu'on retrouve dans l'architecture chrétienne, si vous voulez, mais pas seulement. Et il se retrouve dans la configuration de l'assemblée. Quand un groupe de chrétiens se réunit, le Christ dit deux ou trois réunir. En mon nom, je suis au milieu d'eux. Il désigne une sacramentalité de l'espace. C'est un espace. Trois personnes, quatre personnes réunies, le Christ au milieu d'eux, ça c'est un espace. C'est l'espace sanctifié. Le paradis est un espace, évidemment, etc. Et à plus forte raison, les moments, mais même l'assemblée eucharistique, l'organisation de la prière, l'orientation dans la prière vers l'Orient, vers les lumières, vers les icônes, tout ceci sont des phénomènes de sanctification, de consécration de l'espace. Donc, le temps et l'espace, on en reparlera, je pense, tout le temps, à propos des différents sacrements, ce sont des données créées et qui ont une valeur pour Dieu, et qui ont une valeur pour l'homme, et qui ont une profondeur sacramentale. Je dis ça avec beaucoup de force, parce que un de mes amis, qui était justement franc-maçon, me disait ça, il me dit, le temps n'existe pas. Et en fait, c'est triste qu'il dise ça, parce qu'il était en fait atteint d'une grave maladie, et qu'il devait le conduire à la mort peu de mois après. Et je voulais pas lui dire, mais en fait, dire que le temps n'existe pas, c'était terrible qu'il ait dit ça, parce qu'en fait, le temps existait, effectivement pour lui, mais c'était un temps qu'il conduisait à la mort, et qui aurait pu le conduire à la vie, s'il avait vraiment cru en Dieu. Vous voyez, nous, le temps, c'est le temps qui nous conduit vers le Christ, qui nous conduit vers Dieu, c'est un temps pour la vie, c'est pas un temps pour la mort, mais même si c'était un temps pour la mort, il aurait déjà quand même une structure. C'est hallucinant de dire que le temps n'existe pas. Vous voyez, c'est comment nier que le temps n'existe pas, l'espace, mais qu'est-ce qui existe? Alors, mais il niait complètement ça, il niait complètement que le temps fût, comme on dit en bon français, fût une créature. Je dis, mais mon cher, je ne veux pas le nommer, le temps est une créature. Dans le principe, Dieu a créé l'espace et le temps. Qu'est-ce qui signifie, qu'est-ce qui symbolise? Effectivement, le temps et l'espace dans la Genèse, ce sont les astres, la lumière, le jour, l'alternance du jour et de la nuit. C'est évidemment une figure sacramentelle, c'est un sacrement du temps. Vous voyez? Mais c'est intéressant, c'est un sacrement de l'espace également. L'alternance de l'obscurité et de la lumière, ce sont des registres spatiaux. La lumière est un registre de l'espace. Elle n'est pas seulement un registre du temps. Elle est un registre du temps, parce que vous savez très bien qu'il y a une vitesse de la lumière, etc. La lumière est un registre de l'espace, ça c'est super intéressant. Toute lumière se déploie dans un certain espace mesurable. La preuve, c'est que la lumière qui brille dans cette pièce, si on s'en éloigne, c'est-à-dire que si on prend de la distance, si on va très loin, très loin, très loin dans Paris, on ne la verra plus. Donc ça veut dire qu'elle ne rayonne que dans les limites d'un certain espace. C'est très intéressant. Et pour les ténèbres, c'est pareil. La ténèbre est un espace aussi, parce qu'elle a une limite. Il suffit qu'on craque une allumette dans une cave pour mettre un terme à la ténèbre. Je trouve qu'il y a beaucoup d'idées très intéressantes. Je suis ravi de faire ça, c'est passionnant. Donc, alors, pour conclure, peut-être, parce que j'arrive à la fin de mon œuvre, ce que j'ai voulu dire ici, mais je voudrais le conclure dans une idée que je trouve extrêmement importante, qui est que la sanctification ou la consécration ou la désignation du mystère, n'est pas la transformation du réel. Une consécration, c'est pas sacraliser, c'est pas transformer quelque chose de profane en quelque chose de sacré. Et c'est... Alors que vous allez me dire, mais attendez, mais si, pourtant... Ah non. Pour la vision biblique du monde, il n'y a pas de profane. Il n'y a pas... L'opposition sacrée-profane est une opposition qui ne tient pas dans la révélation biblique et la révélation donc de l'ecclésiale. Il n'y a pas de profane. Ah ! Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition, d'une certaine façon, il n'y a pas d'opposition Église-monde. Mais non, en fait, le sacrement consiste à révéler la valeur de ce qui est, et à révéler ce qui est. C'est-à-dire, c'est-à-dire c'est une transfiguration, ce n'est pas un ajout. C'est-à-dire, c'est assez intéressant, je parlais de valeur tout à l'heure, la consécration, ce n'est pas une valeur ajoutée. C'est pas une valeur ajoutée, c'est la révélation de la valeur de ce qui est. Dieu ne dit pas je te donne de la valeur, je vais te donner de la valeur. Il dit tu as de la valeur à mes yeux. Alors c'est vrai que vous allez dire mais si il y a des moments de valorisation, par exemple quand on couronne quelqu'un, donc on ajoute une valeur supplémentaire à celle qu'il avait. C'est vrai, il y a peut-être des cas comme ça, mais ça c'est ajouter la valeur à de la valeur. C'est pas ajouter la valeur à quelque chose qui n'en a pas. Et par exemple, et d'ailleurs on pourrait même dire, même le couronnement d'ailleurs est la révélation du statut originel de l'homme, parce que l'homme a été fait roi au paradis, à la création, et non pas à l'époque de David. Donc le couronnement révèle la royauté de l'homme, plus qu'il ne le sacre des rois, c'était une révélation de la royauté de l'homme. C'était pas un ajout d'une royauté qui n'aurait pas eu. Ça, c'est très très important. C'est-à-dire que le sacrement, ou le mystère, puisqu'on a passé deux mots, est une transfiguration. C'est-à-dire qu'elle fait apparaître ce qui est. Quand le Christ s'est transfiguré sur la montagne, il n'a pas ajouté une valeur qui n'était pas. Il a montré ce qui est. C'est-à-dire qu'il a montré sa présence dans l'homme, la présence dans l'homme qui était depuis la conception, et qui était en tout cas voulu avant même l'incarnation, comme le disent saint Irénée et saint Maxime. Donc dans la transfiguration, Dieu révèle ce qui est, sa présence, ce qu'il veut, ce qu'il a voulu, et le but même accompli de tout son dessein. C'est pour ça que je dis toujours, je reviens toujours sur ces paroles du Christ au moment de l'institution. Le Christ n'a pas dit « ceci représente mon corps ». Il n'a pas dit non plus « ceci va devenir mon corps par un acte magique ». Il a dit « ceci est mon corps ». Donc le Christ n'est pas un grand magicien qui transforme, paf, du pain en corps ou paf, du vin en sang. Et la liturgie n'est pas un acte magique de transformation spectaculaire, mais elle est la révélation de ce qui est. Et donc ça, c'est très important. Le sacrement révèle ce qui est. Le sacrement, c'est pour ça que je méfie des traductions. Par exemple, dans la liturgie de Saint Jean Chrysostome, on traduit les transformants, mais on devrait dire les transfigurants. Transfigurant par ton Saint-Esprit, la fin de la consécration, de la prière de consécration dans la liturgie selon Saint Jean Chrysostome, qui est donc l'aboutissement de l'épiclèse. On dit Amen, Amen, Amen à ce moment-là. Ce serait intéressant de voir si on ne pourrait pas traduire ici par transfigurant, les transfigurants par ton Saint-Esprit. Donc ça, c'est une proposition de ma part, parce que c'est faut peut-être réfléchir avant de le faire. En grec, c'est le verbe metalavin. Alors metalavin, c'est pas métamorphe aussi, faut voir ce qu'on veut dire par là, mais l'idée de transformation, faire attention, parce que c'était dans la théologie scolastique occidentale, et l'idée qu'il y avait une transsubstantiation, ils ont été très très loin dans l'idée de transformation. Ça change de substance. Mais justement, le sacrement ne change pas la substance, il révèle la substance des choses, si je peux employer le mot « chose ». Et c'est le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous révéler la substance de la vie, la substance de la mort, la substance de l'amour, le sens, le sens du monde et la présence de Dieu en son monde par le Saint-Esprit. C'est ça que font les sacrements. Alors, on s'arrête.